Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne. Nous avons un grand plaisir car nous avons avec nous aujourd'hui dans le studio de Radio Grand Ciel, Madame Brigitte Ferré, que je salue très cordialement malgré ses multiples occupations en tant que directrice des archives départementales d'Eure-et-Loire. Elle a bien voulu accepter notre invitation de venir aujourd'hui nous parler de la paléographie. Ce sera un sujet très intéressant. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui font des recherches généalogiques. La paléographie les aide beaucoup. Et Madame Ferré est aussi docteur en histoire de l'art et elle a contribué à des publications. La toute dernière était consacrée au décor et à la liturgie dans les églises de France au XVIIIe siècle. Un magnifique ouvrage qui rassemble les interventions de tous les participants d'un colloque qui avait été organisé, aidez-moi, il y a 2 ans déjà.
Il va y avoir 2 ans, en septembre 2008.
2008.
Donc la paléographie. La paléographie est la base essentielle pour arriver à lire les écritures anciennes. Il n'y avait pas autrefois de cours de paléographie aux archives départementales. On en fait déjà depuis 3 ou 4 ans, je pense, avec 2 groupes. Un premier groupe d'initiation qui se consacre essentiellement à la découverte des écritures médiévales et surtout à la découverte du système des abréviations. C'est-à-dire que c'est une façon de poser les cadres pour les lecteurs qui vont progresser. C'est donc un cycle à 2 niveaux. Et ensuite, j'assume la paléographie moderne. Mais je ne suis pas chartiste, ce n'est pas ma formation. J'ai fait histoire de l'art et j'ai fait un doctorat consacré à des marbriers producteurs de mobilier religieux issus du Tessin suisse et qui ont produit dans toute la France, y compris certains éléments à Chartres, ce qui est assez amusant. Je les ai retrouvés dans toutes les cathédrales, au XVIIIe ou à peu près. Mais donc la paléographie. La paléographie au XVIIIe siècle, je l'envisage à la fois comme la capacité à lire, à déchiffrer, mais plus encore la capacité qu'on donne à nos lecteurs à découvrir des univers qu'ils ignorent. Alors, je travaille sur des séries de textes qui peuvent être très divers, des archives judiciaires, des textes qu'on redécouvre parce qu'on ne connaît pas tout le contenu de nos cartons par cœur, des textes qu'on redécouvre. J'ai fait travailler assez récemment, l'an dernier et encore cette année, sur un très joli texte qui était une lettre envoyée au marquis de Doux pour lui demander par un amateur de jardin, donc un pépiniériste, mais un jardinier dans le sens du 17e, c'est-à-dire quelqu'un d'un certain niveau, qui avait fourni des arbres pour le verger de Monsieur de Toux et lui faisait une analyse à la fois des espèces qu'il lui envoyait, des poiriers, des pommiers, etc. C'était un homme absolument ami des poires. Bon, il y avait tout de même quelques pêches et des pavis, une espèce de pêche ancienne que l'on ne connaît plus. Il expliquait à ce grand châtelain comment traiter son jardin, son verger, comment l'organiser, comment placer les arbres pour qu'ils ne souffrent pas du vent, que les fruits ne tombent pas. Comment ne pas placer des arbres qui se nuisent les uns auprès des autres, ne pas placer de céréales, certaines céréales sous le verger, puisqu'à cette période on cultivait toujours au pied des arbres, ne pas les placer parce qu'elles nuisent à la croissance des arbres, et aussi comment faire en disposant même des poiriers d'espèces différentes dans un même espace pour que les arbres aient une élégance et se répondent avec certains qui font leur feuillage plus tôt, qui donnent des aspects rouges ou des bois qui se tordent. Enfin, il y avait une importance réelle à l'élégance du jardin. Et puis, on était dans une, même s'il s'agit d'une famille aristocratique de très haut niveau, on veut absolument avoir des fruits le plus longtemps possible. Donc, on multiplie les espèces, y compris pour obtenir des fruits d'hiver que l'on gardera tout l'hiver. Donc j'ai fait travailler sur ce texte qui n'était pas un texte difficile en termes de lecture. Quoi qu'il ait obligé l'ensemble des élèves qui suivent ce cours, ce sont des personnes d'un certain âge, à se poser des questions et à aller redécouvrir un ouvrage que j'apprécie beaucoup, qui est le Dictionnaire de Leroy, un ouvrage du 19e, qui est un dictionnaire de pomologie, qui compte dans un de ses volumes, un volume consacré aux cormes. Qui s'occupe des cormes aujourd'hui. Mais j'ai trouvé ça assez séduisant. Alors, on a aussi beaucoup travaillé avec des archives du chapitre, beaucoup travaillé sur les maisons canoniales, à ce propos en troisième niveau, parce que les gens se sont tellement plu finalement dans ce groupe, tout au moins une année, qu'ils ont voulu continuer à travailler. On a créé un troisième niveau et nous sommes en train de faire une étude de géographie urbaine sur les maisons canoniales, étude qui mettra un certain temps à se faire. Et actuellement, nous travaillons sur les maisons hors cloître, rue Muret, rue des Grands Vasseurs, rue Chanteau, enfin toutes les maisons qui étaient à la périphérie du cloître, et on essaie de les prendre de leur donation à ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. C'est un travail qu'on sectionnera et qu'on voudrait publier parce que c'est un travail qui paraît intéressant de voir ce qu'a été une maison de sa donation à la cathédrale à maintenant.
On va peut-être faire une petite pause musicale après cette introduction. Après cette belle musique, une belle continuation sur l'importance de la paléographie. Madame Ferré, qui nous fait la grande joie d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de Radio Grand Ciel, nous a parlé d'un texte qu'elle a fait travailler et interpréter, oui, parce que nous parlons de paléographie, parfois c'est un peu de l'interprétation, à ses élèves en paléographie. Et ses élèves ont découvert ainsi la multitude, la variété des pommes, les connaissances poussées jusqu'au dernier détail des pépiniéristes qui font rougir nos jardiniers d'aujourd'hui.
Du 17e siècle, donc très tôt.
Oui, je vous laisse la parole, car je pense que c'est donc, pour le grand bonheur de nos auditeurs.
C'est un texte qui est prodigieux parce qu'on est en 1653 et ce jardinier, mais au sens... selon le grand sens, cite le curé d'Hérouville qui a écrit tout juste quelques années avant un traité relatif aux fruits. Bon, c'est un des exemples de ce qu'on a travaillé. En fait, j'essaie toujours que le cours de paléographie soit une visite d'un univers inconnu. Parce que, alors là, je vais être très dure, la généalogie est intéressante pendant quelques années, mais si on se limite à ce que j'appelle l'alignement de noms, c'était justement pour que les gens qui faisaient de la paléographie dans notre service s'ouvrent à d'autres univers et ne voient pas que leur famille, leur branche, même si c'est intéressant en milieu de faire une étude de village ou de milieux sociaux. Rares sont ceux qui atteignent ce niveau, et on était finalement dans quelque chose que je trouvais un peu triste et un peu stérile. Avec la paléographie, nous visitons toutes sortes de choses, et en fait, je choisis selon des critères formels, c'est-à-dire le type d'écriture, bien sûr, mais autrement des textes qui m'intéressent, qui m'ont distrait, qui m'ont étonné, qui, je pense, donnent à voir, à comprendre mieux les univers de 16e, 17e, 18e. Donc nous avons aussi travaillé sur un texte de retable, le préfet d'un retable, dont nous avons le dessin. Là, j'ai un peu oublié la commune, mais là, c'était le vocabulaire qui était en cause, donc un vocabulaire technique très évocateur, et ça a permis aux gens de voir, de comparer finalement le texte, la précision du texte avec la qualité du dessin. Nous travaillons aussi sur les archives judiciaires, peu exploitées parce que difficilement lisibles, souvent un peu notativement, donc difficilement déchiffrable, mais là, elle raconte des histoires entières. Cela peut être des procès, mais cela peut être simplement des inventaires après décès. Il y a un certain nombre de personnes qui, lorsqu'elles meurent, leurs inventaires après décès sont systématiquement faits et conservés par les justices, les prêtres dans les villages, les officiers publics, les notaires, les tabellions. Et il est tout à fait intéressant de voir quels sont les niveaux de possession pour voir quels sont les niveaux de vie. De plus, ces listes d'inventaires sont remarquablement disaires. On y trouve tout. Alors, je disais tout à l'heure, on a commencé un troisième niveau de recherche qui s'ouvre aux maisons canoniales et aux maisons canoniales de leur création, quand on a les documents, mais aussi qui y habitait. Alors, en toute logique, des chanoines. Il y avait, lorsque le chanoine signait le bail, il y avait un bail, il y avait un engagement à ne pas sous-louer. Or, les maisons étaient remplies d'un peuple qui n'avait rien à y faire. Rue Serpente, sur la maison qui est juste là, juste à côté, il y a eu un magasin de vaisselle, un magasin, il y avait des pots d'Allemagne. Dans toute la maison, c'était très drôle. Et puis, il y avait aussi les sous-locations à toutes sortes de gens, à des femmes, parfois, à condition qu'elles soient d'âge canonique.
Qui n'était pas très élevé, je crois, à partir de 42 ans, on pouvait servir. Oui.
Et il y a eu quelque chose que j'ai trouvé très, très drôle. Il y a une veuve d'un gouverneur qui est venue mourir dans une maison du cloître. Là, ce ne sont pas les premières maisons pour lesquelles nous avons l'intention de faire une parution, une édition. Elle meurt, et d'habitude, l'inventaire se fait avec deux chanoines. Mais là, elle meurt et reste sa garde-robe. Et dans sa garde-robe, ce qui semble... Les chanoines sont cinq à faire l'inventaire, et ce qui les émerveille, ce sont les coiffes de dentelle de la dame. Elle avait de la très belle dentelle, qui est quelque chose qui avait une valeur marchande. Mais je trouve très, très drôle, loin de l'image aseptisée du monde religieux créé en 1840, la vraie réforme catholique, c'est 1840, on a au 18e une espèce de verve qui est tout de même très distrayante. Donc, on travaille sur toutes ces maisons, voir qui y vit. On sait qu'on a une maison, on a la plantation des tilleuls au 17e. C'est une maison rue Muret. Les tilleuls, ils sont toujours. Je trouve ça très, très attachant parce qu'on voit, bon, on ne voit pas la rue, mais la ville a bougé et en même temps, tout est resté. Il y a des histoires très drôles dans la rue Muret, justement, une maison de chanoines. Pendant 100 ans, a des problèmes avec le voisinage parce qu'on sait qu'il y a un problème de latrine, le chapitre ne fait pas les travaux, les chanoines qui sont bailleurs se disent ça n'a pas été fait, et les voisins se plaignent, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Ça dure 60, 70 ans, presque un siècle. Alors, je trouve que tout cela est un univers passionnant, et c'est une façon de raconter des histoires aux gens, de leur faire redécouvrir toutes sortes de choses. Nous travaillons aussi sur le vocabulaire, parce qu'il est, tout à fait étonnant, bon, comme des mots qui étaient encore compris bon, il y a 30 ou 40 ans ne sont plus perçus. Et c'est une redécouverte d'un vocabulaire qui est en perte de vitesse. Et je trouve ça assez plaisant de retrouver des mots. Alors, nous travaillons sur énormément de sujets. C'est un peu au gré des découvertes. Là, je travaille sur un sujet grave qui est finalement, c'est toujours cette même étude judiciaire, une histoire de prêtre dans le nord du département, toute fin du 17e, et là c'est une histoire, comment dire, de mal conduite, de scandale, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, le célibat des prêtres, qu'on est vraiment entré, quoi qu'il ait été rappelé constamment, entré dans les mœurs qu'au 19e, et là c'est une histoire d'enfant finalement, mais c'est une histoire qui est à la fois très triste parce qu'il disparaît trois petits-enfants et on ne saura jamais, mais des petits-enfants de moins de 7 ans, c'est-à-dire on est en 1680, et là, les prêtres, pas plus que la population n'est choquée, les enfants de cet âge-là sont très peu nombreux à cette période à dépasser l'âge de 7 ans. Donc la disparition d'enfants qui ne sont pas considérés comme des êtres entiers, des êtres finis, c'est le fameux âge de raison, ne choque pas. Mais ce n'est pas cet aspect-là qui m'intéresse, c'est plutôt dans ce procès qui reproche l'inconduite, c'est toutes les descriptions et les interrogatoires qui ont lieu, qui donnent à voir que les prêtres allaient au carnaval, faisaient la fête, fréquentaient les cabaret, enfin les tavernes, et surtout, ce sont des prêtres nobles, se battaient. Et on voit parallèlement dans d'autres textes, sans arrêt, des demandes du chapitre, des demandes de revenir à une vie plus conforme à la règle. Et ça, c'est un texte très intéressant, parce que j'ai à peu près 300 pages de...
Ah, il y a de quoi étudier l'histoire de l'époque.
Il y a de quoi étudier, il y a des choses étonnantes.
On va faire une petite pause musicale. Brigitte Ferré, directrice des archives départementales d'Eure-et-Loir, est avec nous dans le studio de Radio Grand Ciel. Elle nous a parlé d'un, un procès fleuve qui, au XVIIe siècle,
XVIIe siècle
a occupé la justice. Alors, on va pas tout à fait changer de sujet, mais je crois qu'il serait intéressant de parler aussi de votre travail de docteur en histoire de l'art sur les marbriers les cathédrales.
Oui, c'est plus compliqué. J'ai tout d'abord fait une maîtrise à Aix-en-Provence sur le mobilier religieux produit à Marseille entre 1650 et la Révolution. Il y avait, des petits sculpteurs, toutes sortes de petits sculpteurs, et il y avait deux groupes. Il y avait un personnage, deux familles. Tout d'abord un personnage qui était la famille du parc, des sculpteurs avant les années 1720, le père, et ensuite des marbriers qui arrivent, qui sont des gens qui viennent du Tessin, et du Tessin suisse, qui ont donc des carrières à faire, mais qui prennent à la fois l'industrie du marbre, donc le travail du marbre, et la fourniture de mobilier religieux, mais aussi de statuaire de jardin, de cheminée, etc. Donc ce travail m'a étonnée. J'ai eu le choix entre travailler sur Antoine Duparc, qui, lors de la peste de 1720, part travailler en Espagne pour des raisons purement économiques, ou m'intéresser à ces Tessinois. Et j'aimais beaucoup, sculpteur originaire du Tessin, j'aimais beaucoup cette formule, donc j'ai étudié mes Tessinois. Or, ces Tessinois ont produit du mobilier religieux un peu partout en France, pour des chartreuses, pour des cathédrales et pour des églises de village. Ils ont refait le décor, le cœur de la cathédrale de Vannes, après que l'évêque Bertin ait obtenu de son frère des crédits, puisque le cœur roman de Vannes croulait dans les années 1770. Alors, ceux que j'ai étudiés, il y a des familles, ce sont des cousins, ce sont des familles d'origine italienne, ils sont des lacs autour de Lugano. Ils se répandent un peu partout en France. Ils travaillent, c'est-à-dire qu'ils font, pour employer un mot américain, ils font du dumping, c'est-à-dire qu'ils essaient de monopoliser la commande, fournir le matériel et chasser les sculpteurs locaux. Et chasser les sculpteurs locaux, ils y arrivent très très bien, puisque Antoine Duparc, dont je parlais tout à l'heure, une fois qu'il est revenu d'Espagne, il a retravaillé à Marseille, et en fait, il a quitté la région pour Coutances après s'être vu refuser un marché qui avait été confié à ces Tessinois. Alors, ces Tessinois sont intervenus sur le cœur de la cathédrale de Chartres dans la deuxième phase des travaux. Parce qu'en fait, il y a quelques années, j'avais décidé de faire un article pour la SAEL, d'essayer de faire le bilan de ce que j'avais vu comme travaux sur la cathédrale, puisque c'est tout de même la partie honni, longtemps méprisée. L'ouvrage sur la cathédrale du chanoine Bultôme, je crois qu'il était chanoine, parlait de cette pâtisserie 18e, les propos habituels, on était dans la pureté et l'angélisme gothique. En fait, c'est tout de même quelque chose de très intéressant qu'on redécouvre, puisqu'il est en cours de restauration aujourd'hui. Le cœur, il est long, le projet est long à se mettre en place à Chartres, parce qu'on a la clôture de chœur en cours, et puis ensuite on a un problème sur le clocher vieux, je ne sais plus lequel, qu'on doit restaurer en 1723, et puis on a un énorme problème, il y a un attachement profond au jubé.
Le jubé du XIIIe siècle.
Le jubé gothique est vraiment quelque chose auquel on a un attachement. On est aussi, du côté des chanoines, habitués à cette barrière liturgique, finalement, qui fait une séparation entre la partie réservée aux laïcs et la partie réservée aux prêtres. Il est constitué de grandes plaques de pierre sur lesquelles sont des reliefs, et en fait, il menace ruine. Il menace tellement ruine qu'en 1700... je ne sais plus exactement quelle année, je n'ai plus la date, que les évêques, que les chanoines prennent la décision de démolir. 1753. Mais ils n'obtiennent l'autorisation de l'évêque qu'en 1763, parce que l'évêque, il y a une réaction. Bon, en plus, il y a, le prévôt d'Auvers en fait partie, il y a une part des chanoines qui sont d'avis de faire évoluer le chœur à la moderne. C'est vrai que les prescriptions du Concile de Trente ne se sont réellement appliquées dans la plupart des églises de France qu'au XVIIIe. Il a fallu un temps extrêmement long. Donc, on décide de reprendre tout le chœur. Premier travail, on reprend le sanctuaire, vraiment le bout. Hein, le bout du sanctuaire, l'arrondi. On décide de refaire un maître-autel, d'habiller les arcades gothiques de stuc, de les doter d'un ordre et de tout reprendre. Donc, on fait appel à des artisans qui sont connus, semble-t-il, connus des chanoines parce qu'ils ils ont déjà travaillé sur des projets, pas des chanoines, ils sont connus de l'évêque parce qu'ils ont travaillé sur des projets pour l'évêque il y a quelques années, et principalement un monument funéraire. Donc on fait appel à ces gens, on leur demande, on embauche Bridan, qui a présenté un morceau de sculpture religieuse et considéré comme une possibilité de bon niveau en la matière. On lui demande d'aller chercher les marbres pour choisir les marbres, parce qu'il y a un grand problème. Il faut choisir les marbres, les faire revenir, et compte tenu du volume de l'hôtel que l'on souhaite édifier, et surtout du volume du relief que Bridan souhaite édifier, il faut absolument aller là-bas et trouver une masse de marbre suffisante, sans fil, pour pouvoir réaliser la sculpture.
Il y restera 2 ans, il me semble. Il va finir sans groupe de l'Assomption. Quel est l'apport donc de ces marbriers du Tessinois
Eh bien, les marbriers du Tessinois.
Pour finir, parce que
les marbriers du Tessinois viennent dans la deuxième. Alors, ces marbriers du Tessinois, ce sont eux qui fournissent les marbres, parce qu'on est toujours sur les mêmes familles. Mais ensuite, on envoie les reliefs. Les reliefs qui sont les petits reliefs de part et d'autre qui racontent avec différentes scènes, dont des scènes mettant en valeur la position de la Vierge, qui est particulière, sont envoyés. Ils sont de marbre, entourés de marbre turquin, et envoyés à Gênes pour finition. Et il y a un ouvrier qui vient les poser, qui s'appelle Finelli, et le maître hôtel de La Rochelle est fait par un Tessinois qui s'appelle Finelli.
Voilà ce que beaucoup d'auditeurs ne savaient sans doute pas. Merci beaucoup, Madame Ferré. C'était très intéressant de découvrir des marbriers italiens. À très bientôt. Au revoir, chers auditeurs de Radio Grand Ciel.